Le journal Pierre Veil, bonjour.
Bonjour, édition spéciale. Après les annonces d'Emmanuel Macron hier soir, tous les établissements scolaires fermés à partir de lundi. Réaction dans des écoles à Paris ce matin. Sonia Princey, bonjour.
Bonjour.
Puis une question, comment maintenir un système éducatif à la maison ?
Par l'enseignement à distance, mais il reste beaucoup de questions en suspens sur l'accès au numérique, sur le rôle des parents dans le suivi du travail de leurs enfants et enfin sur les élèves qui préparent des examens. Tout s'organise aujourd'hui dans les établissements.
Une proviseure dans le sud-ouest sera en ligne avec nous. Le président a demandé beaucoup plus de travail à domicile, donc le télétravail.
Je développerai encore les journées passées en télétravail, peut-être même jusqu'à 100%. Ça me permet de pouvoir rester chez moi et m'occuper de mes enfants tout en continuant à travailler de façon à peu près normale en fait.
Voilà une cadre chez Orange dans le sud-ouest. Nous aurons en ligne au téléphone un membre de l'association des DRH. Comment les directeurs des ressources humaines vont gérer ce télétravail et les absences des parents obligés de garder leurs enfants. Invité encore dans ce journal, un membre du comité scientifique qu'Emmanuel Macron a longuement consulté hier avant de faire ses annonces. C'est un médecin généraliste, il représente la médecine de ville, c'est Pierre-Louis Druet. Des mesures de financement exceptionnelles du chômage partiel et des paiements de charges seront annulées ce mois-ci pour les entreprises. Un effort financier, quoi qu'il en coûte, a dit Emmanuel Macron. Les partenaires sociaux en discutent en ce moment. Au ministère du Travail, nous serons sur place. Le coronavirus à l'étranger. En Belgique, écoles, cafés, restaurants vont être fermés. Surprise et désarroi à Bruxelles. Le sport touché aussi. Paris-Nice cycliste écourté. La Ligue 1 et 2 de football suspendue. Annulation aussi en cascade dans le sport amateur. Et puis la terre au carré, Mathieu Vidard, peut-être un peu plus tard que d'habitude.
Absolument Pierre, avec cette question, peut-on considérer la crise du coronavirus comme une répétition générale des mesures contraignantes pour faire face à l'urgence climatique. Je reçois François Gemène pour en parler, les chercheurs en géopolitique de l'environnement.
Mathieu Vidard, la Terre au carré, à tout à l'heure.
France Inter.
Pour des millions d'élèves, ce vendredi est donc le dernier jour en classe avant une pause qui pourrait durer au moins jusqu'aux vacances de printemps. C'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui le disait ce matin sur France Inter. Les crèches, écoles et universités seront fermées à partir de lundi. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir. Comment se prépare-t-on avant ces fermetures la semaine prochaine ? Évidemment, les parents se posent beaucoup de questions sur ce qui va se passer pendant ces fermetures d'écoles. Ce matin, dialogue, discussion animé dans une école élémentaire où le directeur a longuement parlé avec les parents avant le début des cours.
Là, j'ai aucune information.
Ah oui.
J'ai aucune information, je suis comme vous, j'ai les mêmes.
C'est une mesure très sage, ça c'est certain. Je n'avais pas ici et dans cette école de cas d'élèves, mais de parents, oui. Et donc, c'était très compliqué pour ces enfants de rester à la maison alors que tout le monde venait. Donc, même par respect du personnel qui travaille dans les écoles, qui est en contact permanent et rapproché avec les enfants, il y a une mesure de protection là qui me semble très justifiée et très sage.
Moi, je suis plus qu'inquiète parce que donc moi, je suis une famille monoparentale et je suis à mon compte. Et si je garde ma fille qui a 3 ans et demi, je peux pas travailler. Clairement, un enfant en bas âge comme ça, il faut quand même le canaliser. Et je vais pas la laisser toute la journée devant des dessins animés. Donc les aides, on sait pas, on ne sait rien. Donc en gros, pour l'instant, on a nos enfants chez nous, on ne gagne pas notre vie. Et comment fait-on pour payer le loyer, quoi ?
Voilà, dialogue, propos recueillis par Hélène Chevalier ce matin dans une école élémentaire parisienne. Béatrice Duguay, vous êtes rendue dans une crèche du 14e arrondissement de Paris où on s'organise et la grande question, c'est comment faire garder les enfants ?
La question est évidemment omniprésente dans l'esprit des parents qui amènent leurs petits-enfants, mais l'ambiance n'est pas morose.
Oui. Les
oui, d'accord, merci. Humour d'une auxiliaire de puériculture qui ne reverra pas les enfants lundi matin et pour un certain temps, ajoute Yann, papa qui vient déposer son petit bout de chou.
Ça va être des grandes vacances. Ça va durer un mois et demi minimum, moi, je pense.
Oui, il y a un de nous deux qui va s'arrêter, quoi.
Yann travaille chez Aéroport de Paris, sa femme dans une école d'ingénieurs qui ferme, reste à arbitrer la garde des deux petits
moi,
garçons.
Moi, je peux faire du télétravail, donc autant dire que je pense que les employeurs vont en profiter pour utiliser le télétravail un maximum pour éviter d'arrêter les gens, mais c'est pas pour ça que c'est facile de travailler quand on a deux gamins à domicile, quoi.
Pas de solution immédiate non plus pour Adrien, policier dans la vie, sa femme télétravaille. Le plus jeune de ses fistons sera gardé par une nounou, mais pour celui qui va à l'école, il pense faire appel à la famille.
Je vais voir peut-être avec mes parents, je vais me débrouiller comme je peux, près d'Orléans. Mais bon, c'est pas à côté, quoi. Peut-être qu'ils vont s'en occuper, mais bon, vu qu'on est quand même 5 enfants dans la famille, ça va être compliqué, on a tous des enfants. Donc...
On va faire garderie là-bas.
Ben voilà, ouais, c'est ça.
Aucune des personnes croisées ce matin ne remet la mesure en cause et les auxiliaires de puériculture pourraient amener une part de la solution puisqu'elles sont compétentes et disponibles.
Béatrice Duguay dans une crèche du 14e arrondissement de Paris. Fini l'école pendant quelques semaines, même si l'enseignement à distance va se mettre en place, on va en parler. Qu'en pensent les collégiens? Voici quelques collégiens de 5e, plutôt satisfaits avec Cécilia Arbonin.
Au fond, on est tous hyper contents parce qu'on se dit « yes, on n'aura pas cours ». Mais je pense qu'Emmanuel Macron, il a un peu réagi parce que les autres pays prennent des mesures et nous, on fait rien alors qu'on est soi-disant un des pays les plus touchés du monde.
Quand on applique quelque chose comme ça, ça veut dire que le virus est quand même assez dangereux.
Je suis content, ce sera une expérience pour plus tard parce que c'est assez rare de connaître un virus comme ça et qu'on prend un peu de temps à connaître un antidote, donc oui.
Bon, je pense qu'on restera seul quelques jours avec ma sœur.
Bah, on va pas sortir.
Bah, c'est plutôt cool, mais après, j'aimais bien aller à l'école.
Après, si ça dure trop longtemps, on va perdre le fil de l'année.
J'espère que ça va durer.
Que ça va durer?
Bah, le temps d'être en vacances, entre guillemets.
Pour toi, c'est des vacances, là, ce qui se passe?
Bah non, on aura quand même des devoirs par Internet, mais sinon, oui.
Ils espèrent que ça va durer. Sonia Princey est avec nous, spécialiste des questions d'éducation à la rédaction de France Inter. Sonia, faute d'école, c'est donc l'enseignement à distance qui va se mettre en place. De quelle façon?
Alors, les professeurs pourront toujours se rendre dans leurs établissements ou bien travailler de chez eux. Ils feront cours à distance, soit par l'intermédiaire de l'intranet de leur collège ou lycée, qu'ils utilisent déjà et où ils peuvent mettre des cours, des exercices à disposition de leurs élèves, soit grâce à la plateforme du CNED Ma Classe à la Maison, qui propose des séquences toutes prêtes, de la grande section de maternelle à la terminale. Les enseignants devraient aujourd'hui récupérer les adresses mail de toutes les familles pour pouvoir contacter les élèves à partir de lundi. Reste une question, l'accès au numérique pour les élèves qui vont rester à la maison, mais aussi pour les enseignants. Selon une enquête publiée en 2018 par l'ADEP, le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, 57% des enseignants disposaient d'équipements informatiques suffisants dans leurs établissements et 53% d'entre eux déclaraient utiliser le numérique quotidiennement dans leur enseignement. Il reste donc une grande proportion de professeurs qui ne sont pas familiarisés avec ces pratiques.
Sonia, quel va être le rôle des parents?
C'est une autre interrogation. Faut-il avoir Bac plus 5 pour réexpliquer le cours de maths à son enfant de seconde? Bien sûr, les enseignants seront disponibles pour répondre aux questions, mais on le sait, rien ne remplace un cours en présentiel et les parents vont devoir suivre davantage le travail des enfants. Or, c'est source d'inégalités. En France, les devoirs à la maison sont plus marqués socialement que dans les autres pays de l'OCDE. L'étude PISA l'a montré. Plus la période sera longue, plus les familles en difficulté seront pénalisées.
Et que va-t-il se passer pour les examens, le bac?
Ils sont maintenus pour l'instant. Le principal scénario est de maintenir le bac, a précisé Jean-Michel Blanquer. Mais il y a tout un travail de préparation des élèves qui va être beaucoup plus difficile. Et cela pose aussi des soucis pour le bac professionnel, pour des épreuves pratiques. Des consignes seront données au cas par cas.
Sonia Princey, en ligne avec nous au téléphone, Lysiane Gervais, proviseure dans l'Académie de Bordeaux. Bonjour.
Bonjour.
Lysiane Gervais, vous êtes secrétaire nationale du syndicat des chefs d'établissement. Comment vous organisez-vous avant ces fermetures d'écoles la semaine prochaine dans votre établissement?
Voilà, donc une organisation qui est rapide, hein, puisque on a été tous un peu surpris de la décision qui a été prise hier soir, même si on comprend, hein, évidemment. Hein. Donc effectivement, nous, ce matin, on est passé dans toutes les classes pour informer les élèves de la continuité pédagogique, hein, puisque c'est le cas. Les élèves ne sont pas en vacances, ils sont dans une période de formation encore, hein,
mais
en
alors,
principe.
Comment va se dérouler cette continuité pédagogique chez vous?
Alors, nous, on a organisé de la façon suivante. Alors, effectivement, on a donné les adresses, hein, aux parents en confiant une lettre aux enfants donc dans toutes les classes ce matin et puis aussi sur le site de l'établissement, envoyé via Pronote, hein, l'ENT de l'établissement. Et on leur dit qu'effectivement, ils peuvent les élèves peuvent aller sur le lycée.cned.fr où il y a un certain nombre de cours qui sont donnés, mais les enseignants effectivement, ça correspond pas forcément à à la progression de l'enseignement intenté. Donc les professeurs vont via l'ENT envoyer des cours aux élèves.
Lysiane Gervais, les enfants seront à la maison, les élèves seront à la maison. Les enseignants, ils viendront dans votre établissement ?
Alors, pour certains, ils viendront. Pour d'autres, ils ne viendront pas parce que eux-mêmes ont des enfants en bas âge et il faut bien les maintenir à la maison et pas les laisser seuls, hein, surtout ceux qui sont jeunes. Certains vont travailler de chez eux, oui, effectivement. Dans l'Académie de Bordeaux, on a un ENT qui s'appelle Mon Lycée Connecté. Et d'où ils pourront envoyer des cours, ils pourront avoir une interaction avec les élèves, demander des exercices que les élèves pourront faire et qu'ils pourront renvoyer au professeur.
Et tout cela est opérationnel ?
Alors, c'est la grande question, parce que ça se fait vraiment à la marge pour le moment. Et quand tout le monde va être connecté, d'abord, Madame Princey le disait dans sa présentation, il y a certains professeurs qui ne sont pas coutumiers de ce genre d'exercice, donc ça va peut-être poser un souci. Et puis, quand tout le monde sera connecté, est-ce que l'application va fonctionner ?
Sonia,
voilà, c'est une question qu'on peut poser.
Question de Sonia Princey.
Est-ce que vous ne craignez pas que des élèves décrochent plus facilement, notamment les plus défavorisés socialement ?
C'est clair que la fracture sociale existe, parce que d'abord, on a un certain nombre d'élèves. Moi, j'ai aussi des élèves en formation professionnelle, hein, LP, et ces élèves-là, des élèves de CAP notamment, n'ont pas forcément tous les outils chez eux pour pouvoir répondre à la demande. Et puis, voilà, certains ne vont pas forcément se connecter, ça va être un petit peu compliqué d'avoir. D'ailleurs, dès ce matin, des professeurs enseignants dans ces classes-là ont fait créer une adresse mail à leurs élèves pour pouvoir être en contact. Mais quand on n'a pas de connexion Internet, c'est un peu compliqué de le faire malgré tout.
Rappelez-nous les adresses pratiques pour les élèves qui veulent se connecter, qui veulent travailler. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler les élèves sérieux qui veulent travailler et puis ceux qui ne veulent pas se connecter ?
Alors, pour le CNED, non, nous n'aurons pas de moyen de le vérifier, à moins que le CNED lui-même puisse le faire. Pour l'ENT...
Rappelez-nous d'un mot, l'ENT, oui. C'est exactement
L'ENT, c'est Mon Lycée Connecté, donc en l'occurrence pour l'Académie de Bordeaux, mais il y en a dans toutes les académies, et voilà, où on peut envoyer des cours. On peut même, grâce à un module qui s'appelle Moodle, faire une interrogation, hein, dire aux élèves, bah, de telle heure à telle heure, vous aurez interrogation d'histoire géo, par exemple, et à l'issue de l'heure, l'application s'arrête. Donc, ça serait l'occasion. Mais, comme je le disais en préambule, ce sont des outils que les professeurs utilisent très peu. Donc, il va falloir essayer de les former. Lundi, on va mettre en place une séance de formation.
Très
et
bien.
Puis, voilà, c'est... Après, on va voir ce que ça donne. Mais
merci.
C'est une autre occasion de travailler.
Voilà, la mise en pratique. On verra comment ça se passera la semaine prochaine. Lysiane Gervais était en ligne avec nous, proviseur dans un lycée de l'Académie de Bordeaux. À l'instant, on apprend que le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Encore une mesure face à cette épidémie du coronavirus. C'est Édouard Philippe qui vient de l'annoncer. Il est l'invité du journal de TF1 à 13h. Alors, on va parler maintenant de ce confinement, de cette vie à la maison avec des enfants, avec un journaliste de France Inter. C'est notre rendez-vous, comme chaque vendredi, J'ai testé. Et on va retrouver, en Italie, notre correspondant, Bruce de Galzin. Bonjour, Bruce.
Bonjour.
Alors, en Italie, chez vous, les écoles sont fermées depuis une semaine. Vous avez 3 enfants et vous avez dû vous organiser pour vivre à la maison avec les 3 enfants qui ne vont plus en classe.
Ah oui, depuis jeudi dernier, il y a 8,5 millions d'élèves, d'étudiants qui sont à la maison en Italie et les cours se font par mail, par Skype, par vidéoconférence. On l'a entendu jusque-là, hein, sans technologie, point de salut. Nos 3 filles à la maison reçoivent chaque matin un mail à 8h30, c'est l'heure de la rentrée lorsqu'il y a classe. Donc 8h30, un mail dans leur propre boîte scolaire avec leur emploi du temps de la journée. Il y a au minimum 3-4 pièces jointes. un lien vers un site où des documents de travail sont scannés, stockés, et même en complément un accès au site du CNED, l'enseignement français à distance. Voilà donc le programme. Et le soir, eh ben les maîtresses envoient les corrigés. Mais deux fois par semaine, mes filles se connectent aussi avec leur maîtresse, pour une récitation par exemple, et puis pour motiver les troupes, hein, parce que vous allez vous en rendre compte, c'est pas simple d'être confiné chez soi.
Oui, Bruce, parce qu'à la différence de la France, il n'est pas possible de sortir de chez vous là actuellement, voilà, en Italie.
Exactement, je ne sais pas si cela va vous arriver, mais en effet ici, impossible d'aller se promener au parc, par exemple. Hein, nous sommes tous en quarantaine depuis 5 jours maintenant. Et moi, j'ai même été au tout début, en rentrant de la première zone rouge au sud de Milan en quarantaine. Heureusement, sans enfant à la maison, parce que j'avais quelques symptômes du coronavirus. Et donc, interdiction de sortir déjà. Alors, vous êtes suivi par téléphone chaque matin, chaque soir. Un médecin vous appelle. Vous êtes un cas urgent pour être testé un jour et le lendemain, vous ne l'êtes plus. Vous vous lavez les mains tout le temps, vous passez des heures en ligne et des heures en direct à la radio, jusqu'à ce que vous puissiez sortir, tourner des reportages. Mais attention, j'ai un laissez-passer à montrer à la police s'il m'arrête dans la rue.
J'ai testé pour vous, c'était Bruce de Galzin en direct de Rome. Emmanuel Macron a aussi demandé hier soir aux entreprises de favoriser le travail à domicile au maximum. Il a promis de prendre en charge l'indemnisation des salariés contraints de rester chez eux dans le cadre d'un mécanisme exceptionnel de chômage partiel. Le paiement des charges pour les entreprises sera aussi reporté. Emmanuel Macron s'est dit prêt à des gestes budgétaires, quoi qu'il en coûte, je le cite, autrement dit, tant pis pour les déficits. Alors ce matin, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ont reçu les partenaires sociaux pour connaître leur demande face à cette situation de crise sanitaire qui change la vie économique du pays. Hélène Fizi, vous êtes sur place au ministère du Travail. Où en sont les discussions ?
Alors, vous en avez parlé longuement, hein, avec la fermeture des écoles, il y a bien le problème de la garde d'enfants. Et c'est un casse-tête qui a été longuement évoqué ce matin. La première solution, c'est le télétravail. Il pourrait concerner un emploi sur trois, selon la ministre. Pour les autres, un arrêt de travail indemnisé sera possible si votre enfant a moins de 16 ans, sans délai de carence, dès lundi donc, et aucun certificat médical ne sera demandé. En revanche, on ne connaît pas encore le niveau des indemnités journalières, ça c'est en cours de calage et ce sera difficile, voire impossible à mettre en place dans certains secteurs, la construction, le commerce, l'industrie. Le président du MEDEF l'a souligné en sortant de la rencontre tout à l'heure, il faudra trouver des solutions d'organisation au cas par cas.
Et puis Hélène Fili, il y a le dossier du chômage partiel.
Oui, plus de 5000 demandes ont déjà été faites pour quelques 80 000 salariés. Le gouvernement promet que le chômage partiel sera 100% indemnisé. Alors ça ne veut pas dire que le salarié touchera l'intégralité de son salaire. Ça signifie en fait que l'entreprise, elle, sera entièrement remboursée pour l'indemnité qu'elle donnera à son salarié, 70% du salaire brut ou 84% du net, peu importe le salaire. Et là, c'est la différence par rapport à aujourd'hui où la compensation ne se fait qu'au niveau du SMIC. Ça vaut pour les entreprises, mais aussi pour les associations, pour les apprentis également. Pour toucher son salaire complet, il faudra que la branche mette au bout. Il y a des trous dans la raquette, hein, tout de même prévenu Laurent Berger tout à l'heure, pour la CFDT, comme la situation des particuliers employeurs. Mais ces mesures vont permettre d'éviter une vague de licenciements, assure Muriel Pénicaud. Nous savons où nous allons, a voulu rassurer Bruno Le Maire à ses côtés, quoi qu'il en coûte, et il faut anticiper un coût global pour l'ensemble de ces mesures de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
Hélène Fili au ministère du Travail avec les moyens techniques d'Éric Audra. Merci à tous les deux. Par ailleurs, une réunion aura lieu cet après-midi pour décider de reporter ou non l'application de la réforme de l'assurance chômage. Réunion en présence d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Emmanuel Macron, hier soir, a demandé aux Français de limiter au maximum leurs déplacements. Certaines entreprises s'adaptent déjà. C'est le cas d'Orange, la direction du Grand Sud-Ouest basée à Bordeaux. Elle gère 12 000 employés. Son défi maintenant, protéger les salariés et assurer la continuité de l'activité. Cela passe notamment par un télétravail quasi généralisé chez Orange. Reportage de Solène Delarquier.
Malgré la fermeture des écoles, Christelle Trampon, responsable emploi chez Orange et maman de deux jeunes enfants, compte bien continuer à travailler.
Je développerai encore les journées passées en télétravail, peut-être même jusqu'à 100%. Et comme les outils mis à disposition par Orange nous le permettent complètement, finalement, ça me permet de pouvoir rester chez moi et m'occuper de mes enfants tout en continuant à travailler de façon à peu près normale, en fait.
Réunions, visioconférences, accès aux outils à distance, voilà 10 ans qu'Orange développe le télétravail, 60%. 50% des salariés peuvent en bénéficier. Une option privilégiée donc pour gérer cette crise du coronavirus. Marc Van Dorp est DRH du Grand Sud-Ouest.
On a un peu plus de salariés effectivement qui sont en télétravail, à qui on propose le télétravail pour des raisons de retour de congés dans des pays qui sont dans la liste des pays atteints par le coronavirus.
Des mesures barrières sont aussi conseillées aux agents en boutique, comme se tenir à distance des clients. Orange se tient aussi prête à assurer la maintenance du réseau, quoi qu'il arrive. Priorité donnée aux hôpitaux et autres services publics. Seuls les salariés volontaires interviendront avec des mesures de protection.
Voilà, reportage de Solène Delarquier. Je vous le disais, Édouard Philippe, le Premier ministre, est actuellement l'invité du journal de 13h sur TF1. Laurence Perron, vous écoutez ce qu'a dit le chef du gouvernement. Il annonce donc la fin des rassemblements de plus de 100 personnes. En clair, ça veut dire que les cinémas vont fermer.
Il l'a dit, hein, d'ailleurs, il l'a concédé. Les cinémas, les théâtres, alors il ne l'a pas dit, mais effectivement, des rassemblements limités à 100 personnes, ça veut dire fini les bibliothèques, ça veut dire fini les piscines, ça veut dire fini les grands restaurants, ça veut dire fini les grands bars. Alors, de manière assez étonnante, il assure qu'on ne fermera pas les transports en commun. Pourtant, une rame de RER en région parisienne, c'est généralement plus de 1000 personnes. Les supermarchés, il a assuré, resteraient ouverts. On ne sait pas exactement comment. Le Premier ministre compte à ce moment-là sur le bon sens des Français et sur l'application de ce qu'on appelle les gestes barrières. Il a parlé aussi des élections municipales, qui ne représentent pas de danger si, encore une fois, tout le monde respecte les distances sanitaires, le lavage de mains. Toutes nos décisions sont prises sur validation des autorités de santé, et notamment les médecins, les épidémiologiques, insiste Édouard Philippe. Le Premier ministre, qui était ce matin d'ailleurs place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, en visioconférence, avec les préfets un peu partout en France, aux côtés du ministre de la Santé, du professeur Jean-François Delfraissy, le président du comité d'éthique, qui a réaffirmé qu'il n'y avait aucune contre-indication scientifique au bon déroulement du scrutin, si encore une fois on respecte les bons gestes de prévention.
Merci Laurence Perron. Je rappelle donc cette décision annoncée par Édouard Philippe. Le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 100 personnes.
Et les cinémas.
Donc ça concerne bien sûr aussi les cinémas. Merci Laurence. En ligne avec nous, invité de ce journal, on parlait du télétravail. Benoît Serre, qui est membre de l'association des DRH. Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Alors comment allez-vous vous organiser dans les entreprises pour faire fonctionner ce télétravail administrativement? Comment ça va marcher?
Bah, administrativement, en fait, vous avez de plus en plus d'entreprises qui, compte tenu des annonces qui ont été faites hier, passent en télétravail de droit. C'est-à-dire que le principe devient le télétravail et l'exception devient le fait de venir au bureau. Ça, c'est une première caractéristique. Alors que jusqu'à maintenant, les entreprises qui avaient anticipé le télétravail étaient plutôt dans le système inverse. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il faut organiser le télétravail, non seulement dans la logique de production, parce que toutes les entreprises ne sont pas, comme celles que j'ai entendues tout à l'heure, organisées ni prêtes au télétravail. Soit parce qu'elles n'ont pas forcément les ordinateurs portables et les moyens technologiques parce que c'était pas nécessaire du fait de leur activité. Évidemment, d'autres ont une activité qui supporte assez mal le télétravail, mais ça c'est encore autre chose. Le troisième point, c'est qu'il y a quand même des vérifications qui sont en train d'être faites partout pour savoir si les systèmes vont tenir. Parce que lorsque vous avez plus de 1000 ou 1500 ou 2000 personnes qui sont en même temps en télétravail, il faut que votre bande passante fonctionne. Donc on a à la fois des problèmes d'organisation, des problèmes de production et des problèmes de technologie.
Est-ce que le télétravail, ça peut porter préjudice au fonctionnement de l'entreprise, ou est-ce qu'on peut dire que si on télétravaille, c'est comme si on était là, au bureau, il n'y a pas de retard, de lenteur dans le fonctionnement de l'entreprise?
C'est une affaire de durée. C'est-à-dire que le télétravail pendant quelques jours ne va pas impacter l'efficacité de l'entreprise. En revanche, le télétravail qui dure 15 jours, 3 semaines, 1 mois, comme il semblerait que ça pourrait être le cas, va poser des difficultés parce que les gens ne se réunissent plus, n'échangent plus. Autrement dit, il ne faut pas se leurrer. Le télétravail, on s'est un petit peu entraîné pendant la période de grève, mais globalement, il y a certaines entreprises qui sont très organisées de par leur activité ou de par des choix de management qui ont été faits depuis longtemps pour faire du télétravail massif, mais il n'y en a pas beaucoup. Et le dernier point, c'est qu'on estime que c'est à peu près, les remontées qu'on a, c'est qu'à peu près c'est 30% des salariés qui peuvent passer en télétravail du fait de leur activité. Donc vous avez quand même 70% des gens qui ne peuvent pas le faire du fait de leur activité ou des moyens technologiques dont ils disposent.
Comment allez-vous réagir face aux demandes qui vont arriver chez vous, demandes très nombreuses de personnes qui ont des enfants et il faut les garder à la maison, on ne peut pas venir travailler, on ne peut pas faire de télétravail. Qu'est-ce qui va se passer pour ces salariés?
Alors, il y a deux choses. D'abord, réalité fait loi. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la plupart des gens vont essayer de s'organiser. Maintenant, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui est dans cette situation. Et fort heureusement, et ça, il faut le noter, le gouvernement a réagi extrêmement vite en considérant que l'un des deux parents qui serait contraint de rester chez lui parce que son enfant ne peut plus être scolarisé ou en crèche ou ailleurs, dès lors qu'il ne peut pas être en télétravail, sera soumis au régime du chômage partiel. Et ça, c'est tout à fait nouveau, hein. C'est une norme qui n'existe pas d'habitude. Donc déjà, au moins, les salariés sont protégés. L'autre point sur l'organisation, c'est qu'on est en train de faire le point de chaque personne capable de télétravail ou qui n'est pas contraint de rester chez lui pour garder des enfants, pour voir qu'est-ce qu'on garde comme pourcentage d'effectifs dans tel ou tel service.
Cette nouvelle situation avec cette crise sanitaire, pour vous, c'est une situation qui pourrait, si elle dure un mois, deux mois, trois mois, avoir un impact dangereux pour l'économie des entreprises?
En fait, il ne faut pas se tromper, l'impact il est déjà là.
Oui.
Vous avez deux types d'impacts. Vous avez un impact immédiat, c'est-à-dire un impact de production, de chômage partiel, de réalisation, de clientèle, très bien. Mais vous savez surtout déjà, probablement, et le président de la République l'a dit, un impact moyen terme. Parce que dans quel état va se trouver l'économie globale, la dynamique globale de l'économie, à la fin de la crise sanitaire elle-même.
Merci Benoît Serre d'avoir été en ligne avec nous sur France Inter, membre de l'association des DRH. Évidemment, les mesures de soutien pour faire face à la crise économique due au coronavirus vont peser lourd dans le budget. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a avancé un chiffre ce matin sur BFM TV.
Nous ferons tout ce qui est nécessaire, et même plus que ce qui est nécessaire, pour soutenir notre économie et nos entreprises. Combien ça coûtera? Des dizaines de milliards d'euros. Soyons clairs, cela coûtera à l'État des dizaines de milliards d'euros.
Voilà, Bruno Le Maire, ce matin sur BFM, sur le coût financier de toutes ces mesures face à cette crise du coronavirus. Avant de prononcer son discours hier soir, Emmanuel Macron s'est longuement informé sur cette pandémie, son évolution, les risques qu'elle fait courir à la population, notamment les plus fragiles, les personnes âgées. Il voulait avoir des informations médicales précises. Et pour cela, Emmanuel Macron a reçu un conseil scientifique constitué tout récemment, en ligne avec nous, un de ses membres, Pierre-Louis Druet. Bonjour, monsieur Druet.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, vous représentez la médecine de ville. Alors, lors de cette réunion hier, comment avez-vous convaincu Emmanuel Macron de fermer les écoles, les collèges, les crèches, les universités? Parce qu'on se souvient que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, disait encore hier matin, pas question d'une fermeture générale, ça va bloquer tout le pays. Quels ont été vos arguments pour convaincre Emmanuel Macron?
On n'était pas là pour convaincre, on était là pour donner des informations scientifiques qui permettent de prendre des décisions. Mais c'est pas le conseil scientifique qui prend les décisions. Donc on a fait un état actuel de la situation de l'épidémie, mais en même temps un état prospectif sur les jours et les semaines à venir. Donc il y a des modèles qui ont fonctionné, dans le groupe il y a des personnes de haut niveau qui sont capables d'apporter des réponses, et notre réponse à la question par exemple des écoles, c'est de dire qu'effectivement le fait de fermer les écoles permettait de réduire le choc initial et cette pointe qu'on redoute tous d'une épidémie qui ferait qu'on aurait un afflux trop important de patients à l'hôpital et surtout dans les services de réanimation.
Et vous avez réussi à convaincre Emmanuel Macron. Quelles autres informations lui avez-vous données lors de cette réunion hier pour éventuellement d'autres décisions qui pourraient être prises face à cette pandémie?
C'est de dire que le travail qui est fait par le conseil scientifique, il est basé sur les données de la science, et parfois ces données sont tellement nouvelles qu'elles ont une forme d'incertitude majeure, mais néanmoins on peut se tirer des enseignements de l'expérience chinoise, de l'expérience coréenne et de l'expérience italienne, parce que faut bien comprendre que les Italiens, contrairement à ce qui court souvent dans notre langage commun, on sent tout à fait au point, en particulier dans l'Italie du Nord, et ont un système hospitalier et de recueil comparable au nôtre.
Emmanuel Macron, lorsqu'il vous écoutait, vous aviez le sentiment qu'il apprenait, qu'il découvrait des notions scientifiques et médicales?
Vous savez, on n'est pas là pour avoir des sentiments. On a donné des informations de scientifiques. C'est évident que certaines étaient nouvelles pour lui. Je doute qu'elles soient toutes nouvelles dans la mesure où on n'est pas les seuls à apporter des informations et que la littérature internationale et les autres acteurs au niveau de l'Europe sont aussi des personnes avec qui le gouvernement échange.
Alors, je rappelle Pierre-Louis Druet, vous êtes membre de ce conseil scientifique qui donne des conseils à Emmanuel Macron. Selon vous, là, on en est à la fermeture générale des écoles, des crèches, des établissements scolaires, des universités. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui doivent entrer en vigueur prochainement, selon vous, dans les semaines et les mois à venir, si on veut vraiment contrôler, juguler cette épidémie de coronavirus? Allez-vous donner d'autres conseils précis à Emmanuel Macron dans ce domaine?
On continue de travailler sur effectivement d'autres éléments pour pouvoir apporter des réponses éventuelles, en particulier sur le fait que il y a à réfléchir sur les modèles thérapeutiques éventuels, il y a à réfléchir sur des mesures supplémentaires, mais c'est pas dans quelques semaines, c'est maintenant, puisqu'on veut éviter à tout prix, c'est que dans les 15 jours, 3 semaines, il y ait ce pic violent qui inquiète énormément nos collègues réanimateurs avec légitimité.
À l'instant, Édouard Philippe vient d'annoncer, on en parlait dans le journal avec Laurence Perron, que le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Que pensez-vous de cette décision?
C'est dans la même logique, puisque pour nous, si vous voulez, moins les personnes sont regroupées dans des espaces confinés, moins les personnes sont nombreuses dans des espaces où la distance entre chacun est inférieure à 1 mètre, plus on augmente le risque de diffusion du virus qui court actuellement, de toute façon, dans notre pays.
Pierre-Louis Druet, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Inter, médecin généraliste, représentant de la médecine de ville et membre de ce conseil scientifique constitué autour d'Emmanuel Macron. L'allocution d'Emmanuel Macron en pleine crise du coronavirus a été suivie hier soir à la télévision par plus de 25 millions de téléspectateurs, un score très élevé pour une déclaration officielle. Ce sont les chiffres communiqués par l'Institut Médiamétrie. Une longue intervention, 26 minutes. Karine Bécard, bonjour.
Bonjour.
C'est certainement un moment clé dans son quinquennat face à la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Ce sont les mots du chef de l'État. Et on a vu hier soir à la télévision l'image d'un président protecteur, proche des problèmes de santé des Français, un président appelant à l'unité, à la solidarité. Mais Karine, cela n'a pas empêché Emmanuel Macron de faire de la politique pure.
Oui, alors d'abord les chiffres, vous avez raison. 25 millions de téléspectateurs, c'est évidemment beaucoup. À titre de comparaison, l'allocution du président de la République après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame n'avait réuni, si je puis dire, que 13 millions de Français devant leur poste de télévision. Et habituellement, les vœux du chef de l'État en attirent 10 millions tout de même, mais donc 10 millions seulement. Ensuite, oui Pierre, on a incontestablement assisté hier soir à un moment clé du quinquennat d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, à l'Élysée, l'entourage du président considère d'ores et déjà qu'il y aura un avant et un après discours du 12 mars 2020. Maintenant, à 3 jours des élections municipales, oui, le chef de l'État a fait aussi un petit peu de politique. Première cible d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national de Marine Le Pen. Très critique depuis le début de la crise, le président a fustigé tout repli nationaliste.
Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes. Et il faudra les prendre en européen, à l'échelle européenne. Car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections.
Donc inutile de vouloir tout fermer pour effrayer tout le monde, c'est disproportionné, nous dit le président Macron. Deuxième cible, la gauche.
Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe.
Là, on assiste à un changement de ton pour Emmanuel Macron. Le libéral a redécouvert, réinvesti le champ social. Clin d'œil à une partie de sa majorité et bien sûr à son électorat initial, la gauche modérée qui a dû apprécier. Et puis, dernier signe, cette fois adressé aux écologistes.
Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre cadre de vie à d'autres est une folie.
Il faudrait donc sortir de nos réflexes capitalistes. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Comme les écologistes, il propose d'inventer un nouveau modèle de société. En fait, en s'affichant en capitaine de crise, et c'est bien ce qu'on lui demande, le chef de l'État n'a pas manqué d'en profiter pour couper l'herbe sous le pied à tous ses adversaires politiques.
Karine Bécard, notée sur France Inter, un 18-20 spécial ce soir avec 2 heures de téléphone sonne autour des annonces faites par Emmanuel Macron hier soir, donc dès 18h15 et à 19h20, question sur les élections municipales de dimanche qui sont maintenues malgré l'épidémie de coronavirus. Émission donc 18-20 spéciale avec Claire Servagen. Le standard ouvrira dès 17h. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le coronavirus en France. Mais à l'étranger, la maladie, bien sûr, progresse encore. On a reçu des chiffres aujourd'hui. Le bilan dépasse les 5000 morts dans le monde. La Belgique, elle aussi, se mobilise contre le coronavirus. Écoles, cafés, restaurants, discothèques vont être fermés et tous les rassemblements seront annulés, peu importe leur taille et leur nature. Annonce faite hier soir par la Première ministre Sophie Wilmès. Comment réagit-on à Bruxelles face à ce changement de mode de vie? Reportage Angélique Bouin.
Debout près du bar, les mains au fond des poches, Dominique est sous le choc. Elle est salariée de la brasserie La Bircothèque. Elle a appris la nouvelle ce matin à la radio.
Anéantie. Du jour au lendemain, ça, on ferme tout. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, s'il faut s'inscrire au chômage, je ne sais pas.
La brasserie fermera ce soir, tout comme le bistrot voisin où Robert, retraité, attablé devant sa bière, se désole.
Tout ça, ça va être très embêtant pour tout le monde. Ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Je vous assure, toute la journée, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Et on est assez loin l'un de l'autre. On ne se donne pas de bise ni la main. Hein. C'est tout un bazar. Si tous les cafés sont fermés, les gens vont aller où?
Laurence, la patronne du resto gourmand, baptisée en face de la poste, se dit, elle, assez sereine. À une table, une cliente matinale est venue boire un triple expresso pour en profiter, dit-elle. C'est un bon présage pour la patronne qui a déjà pris ses dispositions.
Très concrètement, moi, toutes les factures sont payées. Mon loyer est payé pour le mois de mars. Je mets le personnel en chômage technique, économique. En termes de stock, on a décidé avec la cuisinière de cuisiner ce qui était possible et de mettre tout cela en vente via les réseaux sociaux. Et je pense que les stocks vont partir chez nos adorables clients fidèles.
Et s'il en reste, elle compte bien sur le soutien de l'État. Elle promet une fête, dit-elle, pour la réouverture qu'elle espère dans 3 semaines. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et à Bruxelles, l'Union européenne va mettre en place, on vient de l'apprendre, un fonds de 37 milliards d'euros dans le cadre des mesures visant à limiter l'impact de la pandémie de coronavirus sur les économies des pays membres de l'Union européenne. Le reste de l'actualité, le chirurgien Joël Lescouarnec comparaît à partir d'aujourd'hui devant les assises de Charente-Maritime à Saintes pour des soupçons de pédophilie sur 4 personnes, une voisine, 2 nièces et une ancienne patiente. Les 3 dernières sont aujourd'hui majeures. Les recherches sur ces faits ont permis aux enquêteurs de découvrir que ce médecin est responsable en fait d'actes de pédophilie sur des centaines de personnes et cela a duré pendant 30 ans. Près de 250 plaintes ont été déposées à ce jour. Ariane Grissel est en direct avec nous à Saintes. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Le procès va se dérouler à huis clos.
Et oui, les parents de la fillette qui a fait éclater l'affaire voulaient eux des débats publics. Pour leur avocate, il s'agissait de montrer comment, selon ses termes, pendant 30 ans, le silence a pesé sur cette affaire, a bénéficié à l'accusé. Le couple a décidé de quitter l'audience après le huis clos. Jérôme est le père de la petite fille.
La France a besoin de savoir ce qui se passe. Je pense que c'est normal qu'il soit dénoncé, ce mec. C'est omerta familiale qu'elle soit dénoncée. Malheureusement, là, pour l'instant, on ne saura rien.
La famille du chirurgien arrivait en groupe par une porte dérobée juste avant le début de l'audience, visage dissimulé sous des capuches ou foulards. Avant de faire évacuer la salle, la présidente tient à préciser que le huis clos n'est pas un manque de courage, mais l'application de la loi. À partir du moment où il est demandé par certaines parties civiles, ce sont l'ancienne patiente et les 2 nièces de Joël Lescouarnec qui ont souhaité cette confidentialité. L'un de leurs avocats décrit l'accusé comme exhibitionniste, note que la publicité des débats pourrait lui procurer un certain plaisir. Accusé qui reste impassible dans le box, couronne de cheveux blancs, lunettes. Avant le huis clos, il scrute le public, s'arrête sur chaque visage. Sa femme n'est pas là, elle s'est fait porter pâle. Son témoignage est pourtant très attendu. Que savait-elle des agissements de son mari? La présidente a ordonné une expertise pour vérifier qu'elle était vraiment souffrante.
Ariane Grissel, en direct de Saintes. On revient au coronavirus et le sport. L'UEFA a franchi un pas supplémentaire vers la mise en sommeil de ses compétitions en annonçant aujourd'hui le report de tous les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa programmés la semaine prochaine. Et puis chez nous, la Ligue de football professionnel annonce la suspension immédiate de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Louis de Bergevin, bonjour.
Bonjour Pierre.
Le sport amateur est lui aussi à l'arrêt.
Oui, la première à dégainer après les annonces d'Emmanuel Macron, c'est la Fédération Française de Football. Un communiqué annonce dès hier soir la suspension de l'ensemble des activités et compétitions sur tout le territoire. Ensuite, les fédérations de handball, de volleyball, de basketball ont pris la même décision. Et ce matin, la Fédération Française d'Athlétisme annule à son tour les compétitions, rassemblements et entraînements en groupe. Tout le monde est concerné par ces mesures, les catégories des jeunes mais aussi celles des adultes. Plus de compétitions, plus d'entraînements. D'ailleurs, quand vous appelez certains clubs de football, un message vocal automatique vous indique que tout est fermé. Cet après-midi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, doit tenir une conférence pour définir les modalités de ces suspensions. On attend par exemple de savoir si les compétitions pourraient reprendre avant la fin de la saison et comment fera-t-on pour les montées, les descentes dans les différents championnats ou encore si les salles de sport, de fitness ou les piscines doivent fermer elles aussi. Elles ne dépendent d'aucune fédération, mais pour l'instant, elles n'ont pas d'obligation. La plupart restent ouvertes aujourd'hui.
Louis de Bergevin, conséquence du coronavirus et des mesures annoncées hier par Emmanuel Macron, Paris-Nice, la course cycliste, bien sûr, se terminera demain à l'issue de la 7e étape dans les Alpes-Maritimes et non pas dimanche, comme c'était initialement prévu. Fanny Le Chevestrier suit cette course en ce moment. Bonjour Fanny.
Bonjour Pierre.
Alors cette décision, elle annule donc la dernière étape qui devait se dérouler autour de Nice dimanche. Mais on se pose une question ce matin, est-ce que la course peut continuer alors que le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'il interdisait les rassemblements de plus de 100 personnes et il y a bien plus de 100 coureurs sur le Paris-Nice?
Ils étaient effectivement, Pierre, 115 ce matin à prendre le départ de la course. Une course qui continue à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Pour l'instant, il n'est pas question de la supprimer. Les organisateurs ce matin au départ à Sorgues nous ont répété, nous avons eu les autorisations publiques pour poursuivre jusqu'à demain soir. En revanche, effectivement, pour aller jusqu'à Nice, là, ils n'ont pas eu les autorisations. Ils craignaient qu'il y ait trop de monde. Mais pour l'instant, pour continuer jusqu'à demain, ce sera toujours le cas. Ça ne sera peut-être plus le cas, effectivement, ce soir. Les coureurs nous ont également fait part de leur volonté de poursuivre. Quant à la situation assez incongrue, je vous l'accorde, alors que tous les autres sports sont à l'arrêt, Pierre, eh bien, on nous a répondu, c'est ce que nous ont dit plusieurs directeurs sportifs d'équipe, que la situation, l'économie du cyclisme n'était pas vraiment la même que pour d'autres sports. Fin de citation.
Fanny Le Chevestrier, je vous rappelle donc la principale information de ce journal, le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 100 personnes et cela aura des conséquences dans les théâtres et les cinémas. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Voici Élodie Calac de Météo France.
Il n'y a que près des Pyrénées que le ciel reste gris avec quelques pluies éparses. Ailleurs, c'est ensoleillé, les éclaircies sont de retour. Des nuages se développent malgré tout sur les régions du nord. Ils deviennent plus nombreux sur le nord-ouest cet après-midi, prémisse d'une dégradation pour demain. Une averse n'est pas exclue entre la Bretagne et le nord de la Seine. Le soleil brille plus généreusement entre le Limousin, l'Alsace et le nord des Alpes. Comptez 10 degrés au Havre, 12 à Rennes, Limoges et Besançon, 13 à Paris et à Agen, 14 à Grenoble, 16 degrés à Narbonne et à Nice, jusqu'à 21 à Toulon. Demain, on aura une perturbation très peu active sur l'ouest et le nord du pays. On trouvera le soleil en descendant vers la Méditerranée. Dimanche sera une belle journée, mais on aura plus de nuages sur le sud-est et de nouvelles pluies gagneront le nord-ouest.